You're with SBS Radio.
Et les grands titres de ce mardi 4 décembre 2018 en Australie. Une nouvelle étude révèle que la majorité des Australiens ne sont pas d'accord avec l'idée de réduire le nombre de migrants autorisés à venir s'installer sur le territoire. Une étude qui tombe alors que le mois dernier, le gouvernement fédéral annonçait son intention de réduire de 30 000 le nombre annuel d'immigrants permanents. À l'international, comment préserver la terre et les civilisations pendant qu'il en est encore temps? Réunie à Katowice en Pologne, la communauté internationale se penche jusqu'au 14 décembre sur les règles de mise en application de l'accord de Paris. Ce sera le grand chantier de cette COP24. Gouvernement français cherche sortie de crise désespérément. Le Premier ministre en première ligne pour désamorcer le conflit, éviter la répétition des violences, limiter les pénuries et minimiser le coût économique de cette crise. Et enfin, le ballon d'or masculin revient au Croate Luka Modric, artisan d'une finale en Coupe du Monde, même si perdu face à la France, et de la 3e Ligue des champions du Real Madrid également. Il met fin à l'hégémonie Messi-Ronaldo. Une nouvelle étude a révélé que 82% des Australiens pensent que l'immigration du pays n'a pas besoin d'être réduite. La 11e étude annuelle de la Fondation Scanlon sur la cohésion sociale indique que 35% des personnes interrogées pensent que l'immigration est à peu près correcte, tandis que 17% estiment que le nombre actuel est trop bas. Environ 42% des personnes estiment que le nombre de migrants acceptés par le pays est trop élevé. Et la présidente du Conseil des communautés ethniques du Victoria, Chris Pavlidis, a déclaré que dans l'ensemble, les résultats offrent une image positive de la compréhension du multiculturalisme par la société australienne.
That seems to be the general feel out in the community. We see it in our neighbourhoods, we see it in our local schools, in our shopping centres, our neighbours. We're living amongst people who, look, in fact, we're all immigrants. Other than our Indigenous community, we're all immigrants to this nation.
Les résultats viennent après que le gouvernement fédéral, le mois dernier, ait annoncé son intention de réduire de 30 000 le nombre annuel d'immigrants permanents. Le plafond annuel d'immigration de l'Australie est de 190 000, mais seulement 162 000. 1000 visas permanents environ ont été approuvés l'année dernière. Et puis une réunion du Parti libéral fédéral a été organisée en urgence hier soir pour discuter de la révision des règles sur le changement de dirigeant plusieurs mois après le renversement de Malcolm Turnbull au poste de Premier ministre. Le ministre des Finances, Matthias Cormann, a dit vouloir redonner confiance aux électeurs australiens. L'une des règles, par exemple, le Premier ministre élu restera à la tête du parti pendant un mandat complet. Dorénavant, une majorité des deux tiers sera nécessaire pour provoquer un changement de leadership. Et le sénateur Cormann a déclaré que les changements contribueraient à rétablir la confiance des Australiens dans le parti.
The leadership group has been discussing this for some time. We had a meeting of the ministry last night, and overwhelmingly the view of the ministry was, once this change was adopted unanimously, that it was important to take it to the party room as soon as possible. And we obviously did not want the party room to find out about this proposal through the media. We wanted to take the party room into our confidence at the earliest opportunity.
Et réaction de l'opposition, Tania Plibersek, leader adjointe du Parti travailliste, a déclaré que les changements ne faisaient que souligner l'instabilité du gouvernement Morrison.
If Scott Morrison was really interested in stability, he would explain why he knifed Malcolm Turnbull, or he wouldn't have done it in the first place. Nothing says stability like an emergency meeting of the Liberal Party in the dead of night. And this government is now reached such a crisis in the government that nobody believes that a simple rule change will actually bring certainty to the Federal Liberal Party.
Malcolm Turnbull, le plus récent Premier ministre libéral à être évincé par une sorte de coup d'État, a salué les changements, mais veut rester prudent quant au succès de ces nouvelles règles.
People will welcome the prospect of there being fewer or less of the sort of revolving door prime ministership, which I think was the way Scott Morrison referred to it last night. So I think it's a welcome reform. Of course, how effective it will be, time will tell.
Et le naturaliste britannique Sir David Attenborough a averti qu'une grande partie du monde naturel pourrait disparaître si les dirigeants n'agissaient pas contre le changement climatique. Le rédacteur scientifique et écrivain a pris le siège du peuple lors de la conférence sur le changement climatique de la COP24 en Pologne, présentée comme la plus importante réunion des Nations Unies depuis l'accord historique de Paris sur le climat en 2015. Sir David est censé faire le lien entre le public et les décideurs lors de la conférence. Il dit que le temps est compté pour que les dirigeants agissent.
The people have spoken. Leaders of the world, you must lead. The continuation of our civilizations and the natural world upon which we depend is in your hands. Thank you.
L'ami de Jamal Khashoggi, Omar Abdulaziz, porte plainte en Israël après la mort du journaliste à Istanbul il y a 2 mois. Une plainte devant un tribunal de Tel Aviv car elle vise NSO, une société accusée d'avoir vendu un logiciel permettant d'espionner les échanges téléphoniques de Jamal Khashoggi à Jérusalem, Guilhem Deltay pour RFI.
Ce n'est pas la première fois que NSO est attaqué en justice pour avoir vendu son logiciel d'espionnage à des régimes qui en auraient fait usage contre des membres de la société civile de leur pays. Mais la médiatisation du dossier de Jamal Khashoggi rend la démarche d'Omar Abdulaziz plus délicate pour le groupe israélien. La plainte du militant saoudien désormais installé au Canada stipule que NSO a vendu à l'Arabie Saoudite un système utilisé pour espionner ses conversations et ses échanges téléphoniques avec Jamal Khashoggi, et les renseignements ainsi obtenus furent une véritable contribution à la décision de tuer M. Khashoggi, est-il écrit. Omar Abdulaziz réclame près de 150 000 euros de dommages et intérêts et l'arrêt de la fourniture de ce service à l'Arabie Saoudite. Mais pour NSO, cette plainte est dénuée de fondement. Elle ne prouve pas que ce sont bien ces technologies qui ont été utilisées. Elle affirme également qu'elle n'est pas responsable de l'utilisation faite par ses clients de ces produits. Mais pour la société, l'enjeu est fondamental car l'organisation Amnesty International dénonce l'utilisation de ces technologies dans des atteintes aux droits de l'homme et elle entend demander à la justice d'annuler l'autorisation d'exportation accordée à NSO par le ministère israélien de la Défense. Guilhem Deltay, Jérusalem.
Et puis la justice suédoise a rejeté ce lundi l'appel de Jean-Claude Arnault, condamné pour avoir violé une femme à 2 reprises en 2011. Sa peine passe à 2 ans et 6 mois de prison, verdict très suivi en Suède. Frédéric Faux pour RFI.
C'est un coup dur pour Jean-Claude Arnault. Le Français, accusé de viol et condamné lors d'un premier procès en septembre, vient d'être condamné pour un deuxième viol sur la même femme. Sa peine passe donc de 2 ans à 2 ans et demi de prison. Un verdict annoncé et commenté en direct par les chaînes de télévision en Suède, où ce procès est très suivi. Jean-Claude Arnault a été en effet pendant des décennies une figure de la vie culturelle dans ce pays, un proche de la prestigieuse Académie suédoise. Cette dernière, empêtrée dans son soutien aux Français, a dû d'ailleurs renoncer cette année à décerner le prix Nobel de littérature, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce procès ici est aussi considéré comme étant le premier de l'ère MeToo, car toute l'affaire est partie des témoignages de 18 femmes en novembre 2017 qui l'ont accusé dans la presse de viol ou d'agression. Jean-Claude Arnault, qui a clamé son innocence pendant toute la procédure, a annoncé qu'il allait faire appel de cette seconde condamnation. Frédéric Faux, Stockholm, RFI.
Politique et crise sociale en France maintenant, après les violences sur les Champs-Élysées et une mobilisation qui ne faiblit pas. Commençant même à paralyser le pays, l'exécutif est cette fois pleinement mobilisé pour parvenir à une sortie de crise rapide. Une réunion entre le président, le premier ministre et plusieurs ministres s'est tenue hier dans la soirée au palais présidentiel. Elle devrait déboucher sur des annonces importantes dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le premier ministre Édouard Philippe, qui a reçu lundi les chefs de parti et doit recevoir ce mardi les gilets jaunes, doit débattre mercredi avec le Parlement et jeudi avec le Sénat. En Bretagne, principalement dans le Finistère, mais aussi dans le Morbihan et les Côtes d'Armor, plusieurs dizaines de stations-service sont fermées en raison du blocage des dépôts de carburant de Brest et Lorient. Blocage par des artisans du BTP avec le renfort de gilets jaunes. À Lorient, dans le Finistère, des mesures de restriction ont dû être mises en place par la préfecture. 3 camions réquisitionnés ont pu quitter le dépôt de Brest pour les besoins des services d'urgence. Reportage à Brest, Hervé Crissard pour RFI.
Station fermée ou en pénurie de gazole, station ouverte et prise d'assaut. Dans le Finistère, c'est la course pour trouver quelques dizaines de litres. À Plougastel, près de Brest, une grande surface se propose tous les carburants, mais limitée à 20 euros. C'est l'embouteillage, le responsable des pompes est débordé.
Il y a une des employés, la directrice directrice du magasin qui a failli se faire renverser par une voiture parce qu'on a voulu laisser un prioritaire, une infirmière ou un infirmier, on a voulu laisser passer et on a failli se faire renverser.
Certains ont pris une demi-journée de repos pour trouver de l'essence. Il faut parfois patienter une heure.
Bah, c'est pas facile, hein. Pour ceux qui travaillent, moi je suis auxiliaire de vie, c'est vraiment que c'est pas facile pour les personnes âgées, quoi. Bah, on sera obligé de faire juste les repas des personnes, point.
C'est déjà bien pas mal qu'on puisse aller bosser demain, parce qu'aujourd'hui on a été obligé de poser la journée.
À quelques kilomètres sur le port, le dépôt de carburant bloqué depuis jeudi par les artisans du BTP qui protestent contre la fin de leur gazole détaxé. Enfin, on va nous écouter, explique Bruno Corr, leur porte-parole.
Nous, c'est un appel au secours qu'on fait. On n'est pas violent, on n'a rien brûlé, c'est pas comme à Paris, on casse tout. C'est peut-être pour ça qu'on nous entend pas, mais nous, on n'a pas l'intention de casser. On dégrade rien, on n'est pas des voyous, on est des patrons d'entreprise.
Dans le Finistère, 4 stations ont été réquisitionnées pour les services d'urgence. Dans les stations encore ouvertes, les particuliers peuvent acheter au maximum 30 € de carburant par jour. Brest, Hervé Cressard, France Bleu, Brésil pour RFI.
Et puis les gilets jaunes vus par nos voisins, la journaliste allemande Tania Kurenbecker, correspondante à Paris pour... à Paris de Tagesspiegel, Handelsblatt et Focus croule sous les demandes de ces rédactions. Écoutez-la au micro de RFI.
Au début, c'était surtout d'écrire les images du chaos à Paris. Hier, c'était déjà un peu plus analytique. Par exemple, ils voulaient savoir pourquoi il y a tellement de bastons à Paris, qui sont les gilets jaunes. Est-ce que la situation pour Macron est très dangereuse? On se demande qu'est-ce que ça représente pour les élections européennes. Et aussi, est-ce que le parti d'extrême droite de Marine Le Pen peut profiter de cette situation-là?
Tania Kurenbecker, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une crainte en Allemagne aussi que ce mouvement des gilets jaunes puisse s'exporter en Allemagne?
J'avais la question hier et les experts ils pensent que ça pourrait pas devenir comme ça parce que déjà on n'a pas une culture du pouvoir de la rue comme on s'est connu en France avec des manifestations assez violentes et en plus ce qui est encore plus important, on n'a pas une personnalité aussi forte que le président en France contre lequel ça se dirige, c'est ce qu'on avait vu sur les graffitis par exemple sur l'Arc de Triomphe.
Voilà la journaliste allemande Tania Kurenbecker interviewée par Stéphanie Schuller pour RFI. Et puis après le journal des sports, en deuxième partie d'émission, on reviendra sur une actualité en France plus détaillée sur les gilets jaunes et le gouvernement avec notre correspondant sur place à Paris, Émile Matasso. Et hier, lundi 3 décembre, c'était la journée internationale des personnes handicapées et c'était l'occasion de mettre en lumière le quotidien des personnes atteintes de cécité. Aujourd'hui en France, un aveugle naît toutes les 15 heures et pour permettre à ses enfants de pouvoir s'insérer dans la société, il faut bien sûr leur offrir une éducation scolaire, mais il faut aussi les accompagner dans l'apprentissage de gestes simples du quotidien pour qu'ils puissent petit à petit gagner en autonomie et mieux vivre leur handicap. L'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris, accueille depuis 1784 des enfants aveugles ou malvoyants de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Ici, on dispense le programme de l'éducation nationale, des cours de braille et tout ce qui peut rendre les élèves les plus autonomes possible. On écoute un reportage de Lucie Bouteloup pour RFI.
Kenza, je vais te lire la recette.
D'accord.
Donc on va avoir besoin d'un œuf.
C'est bon.
Aujourd'hui, pour Kenza, c'est cours de cuisine. Malvoyante de naissance, elle s'exerce chaque jour pour devenir autonome dans la réalisation de gestes simples du quotidien.
Ça m'apprend comment faire. Comme ça, je connais plusieurs recettes. Quand je serai plus grande, quand j'aurai un appartement, bah, je ne pourrai pas compter sur ma mère, mes tantes et tout ça.
Alors, on va voir comment on fait pour mesurer la quantité de beurre, justement, quand on ne voit pas forcément les petits traits aussi qu'il y a sur le papier. Il y a une technique avec les doigts. Un doigt, ça fait 25 grammes.
Connaître les astuces pour peser les ingrédients, faire ses lacets, reconnaître les pièces de monnaie, se maquiller ou tout simplement faire ses soins de toilette, autant de techniques qu'Elisabeth Bradshaw enseigne en AVJ, autonomie de la vie journalière. Tout au long de leur scolarité, elle accompagne les élèves de l'INJA sur la route parfois tortueuse de l'autonomie.
Pour certains jeunes, je vous donne un exemple, on va prendre 2 ans pour un lacet. Ça dépend justement aussi des enfants, de leurs habitudes de vie, de leurs habitudes familiales. On fait toujours des suivis assez personnalisés quand même. On va développer tout ce qui est multisensoriel justement pour pallier à la déficience visuelle. On va travailler le sens du toucher, ce n'est pas acquis. C'est pour ça qu'il faut travailler justement en séance d'AVJ, chez soi, ailleurs, avec les éducateurs. Et petit à petit, de pouvoir acquérir un petit peu de liberté d'action, ça les valorise énormément et c'est très très important ça.
Cette liberté d'action dont parle Elisabeth passe également par la capacité à se déplacer seule dans les espaces publics. Jason, lunettes de soleil vissées sur le nez, canne blanche à la main, s'apprête à mettre en pratique son cours de locomotion.
Ah, donc on s'apprête à sortir de l'institut.
Jason a 17 ans. Il a perdu la vue progressivement avant de devenir complètement aveugle il y a 3 ans. À force d'entraînement et de détermination, il peut aujourd'hui traverser la rue tout seul. Et même s'il a encore beaucoup à apprendre, rien ne semble arrêter ce jeune lycéen en chemin vers l'autonomie. Plus tard, il a de grands projets. Être professeur d'anglais dans un lycée de voyants.
Je me dis qu'en étant prof, je les sensibiliserai pas qu'au handicap visuel. J'espère les sensibiliser au handicap en général, pour qu'il y ait une compréhension de l'autre et que ces personnes en situation de handicap osent sortir de chez eux et osent aborder les autres.
Être professeur, un vrai défi, quand on sait que selon la Fédération des aveugles de France, 50% des personnes déficientes visuelles sont aujourd'hui au chômage.
Et en sport, rapidement, je vous rappelle que le journal des sports sera plus en détail. Ce sera juste après le journal et sera présenté par notre collègue Jean-Noël Ducasse. Mais en football, donc, l'attaquante Ada Hegerberg, triple vainqueur de la Ligue des champions féminines avec la formation française de Lyon, a été nommée meilleure joueuse du monde en 2018, remportant le Ballon d'Or féminin lors de la cérémonie des Ballons d'Or à Paris. Ada a disputé le titre avec l'Australienne Samantha Kerr. Et l'attaquante de Matildas, Kerr, qui a remporté une série de récompenses, dont le prix ESPY de la meilleure joueuse de football féminin international, a terminé cinquième du vote. Hegerberg a qualifié le prix de, je cite, « de grands pas pour le football féminin ». Et par ailleurs, le milieu de terrain du Real Madrid et de la Croatie, Luka Modric, a été élu vainqueur du Ballon d'Or masculin, brisant ainsi les 10 années de présence de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On passe maintenant à la météo d'aujourd'hui, un temps mitigé sur l'ensemble du pays pour ce troisième jour de l'été en Australie. Alors, c'est nuageux avec 24 degrés sur Perth, plutôt ensoleillé 27 degrés pour Adélaïde, nuageux 20 degrés pour Melbourne, des nuages également 19 degrés pour Hobart en Tasmanie, du soleil 27 degrés pour Canberra, partiellement nuageux 22 degrés pour Wollongong, des conditions similaires 24 degrés pour Sydney, c'est nuageux également 25 degrés pour Newcastle, de la pluie attendue en fin d'après-midi avec 30 degrés sur Brisbane, de la pluie attendue également 35 degrés pour Cairns. Et enfin, c'est plutôt nuageux avec 35 degrés pour Darwin. Et en bourse, aujourd'hui, avec un dollar australien, vous achetez 0,71 US dollars, 0,62 euros et 0,55 livres sterling. Et on revient sur la une de ce journal du mardi 4 décembre 2018. En Australie, une nouvelle étude révèle que la majorité des Australiens ne sont pas d'accord avec l'idée de réduire le nombre de migrants autorisés à venir s'installer sur le territoire. Une étude qui tombe alors que le mois dernier, le gouvernement fédéral annonçait son intention de réduire de 30 000 le nombre annuel d'immigrants permanents. À l'international, comment préserver la terre et les civilisations pendant qu'il en est encore temps? Réunie à Katowice en Pologne, la communauté internationale se penche jusqu'au 14 décembre sur les règles de mise en application de l'accord de Paris. Ce sera le grand chantier de cette COP24. Le gouvernement français cherche sortie de crise désespérément. Le Premier ministre en première ligne pour désamorcer le conflit, éviter la répétition des violences, limiter les pénuries et minimiser le coût économique de cette crise. Enfin, le ballon d'or masculin revient au Croate Luka Modric, artisan d'une finale en Coupe du Monde. Même si perdu face à la France et de la 3e Ligue des champions du Real Madrid également, il met fin à l'hégémonie Messi-Ronaldo. sbs.com.au